Une journée, plusieurs mobilisations ce samedi 11 octobre. Deux mobilisations, d'abord contre l'exploitation des gaz de couche, c'est le No Fracking Day, et puis contre le traité transatlantique, donc TAFTA. Pour en parler, on est dans le studio de Radio PFM avec Pierre Rose du collectif Ouyouyouy 5962. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et avec aussi Hervé Dieval du collectif Stop TAFTA Arras. Bonjour Hervé.
Bonjour.
On commence par quoi ? Alors par le Fracking Day, donc là c'est enfin, le No Fracking Day plus exactement, journée mondiale contre l'exploitation des gaz de couche, Pierre-Rose ?
Oui, alors cette journée n'est pas la première puisque c'est déjà la troisième qui a été organisée depuis donc 2012. C'est une journée pour manifester contre l'utilisation de la fracturation hydraulique. Et ça veut dire qu'on veut utiliser cette technique au niveau de l'exploitation du gaz de schiste et du gaz de couche. Nous, dans notre région, c'est le gaz de couche qui est concerné, c'est-à-dire c'est l'utilisation, la récupération du méthane dans les couches de charbon, en dessous des couches de charbon qui ont déjà été exploitées par les houilleurs.
Un point sur l'actualité internationale autour de cette question. Bon, on sait qu'aux États-Unis, c'est déjà le cas. Hein. Il y a une grosse exploitation des gaz de schiste et des gaz de couche avec des grosses répercussions. Où en est-on dans les autres pays ?
Oui, alors effectivement, il y a à différents endroits, il y a des batailles contre l'exploitation du méthane. Par le fracking en particulier, et ce qu'on voit c'est par exemple aux États-Unis il y a 26 entreprises qui ont fait faillite, ce qui veut dire qu'après ce sont les structures étatiques qui sont obligées de récupérer au niveau écologique et au niveau social d'ailleurs. Alors même chose en Pologne, même chose en Angleterre, actuellement Total qui ne peut pas encore utiliser cette technique va s'exercer par exemple en Chine, par exemple en Algérie. Et donc nous, au niveau du territoire français, on est évidemment bien opposés. Il y a un certain nombre de collectifs qui existent dans le sud, qui sont très actifs, qui mobilisent non seulement des citoyens, mais également pas mal d'élus, de tous bords d'ailleurs. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la région. C'est-à-dire que dans la région, on a une mobilisation à partir essentiellement de citoyens. Et pour rappel, il y a eu une manifestation qui a eu lieu au mois d'avril à Divion et qui a permis de rassembler tout de même 750 personnes contre justement ce gaz de couche. Mais on est avec une collusion d'un certain nombre de partis politiques, en particulier le Parti communiste, l'UMP, l'EPS, qui sont favorables et ils vont le démontrer encore jeudi à Lens lors d'un colloque.
Un mot oui, justement sur ce colloque, c'est quoi le colloque ?
Le colloque, c'est simplement une idée de la région pour dire on va essayer de discuter sur l'utilisation, sur la possibilité d'exploiter du gaz de couche dans la région. Alors, il faut savoir que c'est une journée qui se réduit à 4 heures. Et sur ces 4 heures, il y a 3h30 d'institutionnels, d'élus et tout ça qui sont relativement favorables à l'exploitation du gaz de couche. Et puis, il y aura une demi-heure pour les petits opposants, entre guillemets. Et donc, ça veut dire que c'est un colloque qui est déjà avec des dés qui sont pipés dès le départ.
Vous allez venir perturber ce colloque ? Comment ça va se passer ?
C'est ce qu'on espère. On espère qu'il y aura du monde à l'entrée. Puis, comme il y aura des gens qui vont tout de même être à la tribune, il y aura au moins une personne qui sera à la tribune. Et quelques-uns dans la salle, il y aura des questions qui seront posées de façon très pointue. Pour pouvoir au moins alerter, sans aucun espoir évidemment, parce que a priori c'est tout de même un exercice assez défavorable au niveau par exemple de la représentation des gens qui ont été invités. Hein.
Au niveau des sommets de l'État, on en est où ? Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de tergiversations autour de cette question.
Alors au niveau de l'État, c'est pas compliqué. Ségolène Royal a une position qui est contre l'utilisation de la fracturation hydraulique, mais d'un autre côté, elle accepte, elle a permis un certain nombre d'explorations actuellement, enfin un certain nombre de permis dans certains endroits de France, ce qui fait que c'est un peu toujours comme d'habitude, c'est-à-dire c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et donc, mais enfin, on espère au moins de ce côté-là avoir un certain appui, parce que faut pas espérer du côté du ministre de l'économie, même celui qui remplace Arnaud Montebourg, c'est-à-dire Emmanuel Macron, faut pas espérer avoir un appui de ce côté-là, parce que évidemment, comme le mythe de la croissance existe, on le voit à l'œuvre à cet endroit.
Un point aussi sur les projets dans la région d'exploration, d'exploitation.
Alors, pour l'instant, c'est suspendu dans la mesure où EGL, qui doit explorer, et EGL actuellement a des gros ennuis en Lorraine, et donc ils se retrouvent avec des difficultés, je pense, à la fois au niveau technique et au niveau financier. Donc, il était prévu de commencer à Avion, près de chez nous, donc dès le mois de juin, et en réalité ils sont déjà en retard, mais ils vont espérer avoir un appui de la région et éventuellement des subventions, dans la mesure où le colloque qui est prévu le 9 octobre a déjà envisagé de commencer à faire l'exploitation fin décembre. Alors on voit déjà les limites, hein. Mais je veux dire que sur ce point, on a beaucoup de craintes à avoir. On sait très bien que les gens sont un peu sensibilisés à cette question, mais il n'y a pas encore une mobilisation suffisamment importante. C'est ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment.
Hervé Dieval, vous faites partie d'un autre collectif qui appelle à se mobiliser donc le même jour, hein, ce samedi, même endroit. On reparlera tout à l'heure un petit peu de la convergence de ces mobilisations. Collectif Stop TAFTA Arras. C'est quoi TAFTA?
Alors, d'abord, c'est le même jour, mais c'est pas le même endroit. C'est-à-dire que, pour rapidement, on reviendra peut-être au TAFTA après, mais actuellement se déroulent des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis pour libéraliser le commerce et l'investissement. Ces négociations sont pour nous porteuses de nombreux dangers. Et c'est donc créé au niveau national un collectif qui regroupe une quarantaine d'organisations qui sont soit des partis politiques, soit des syndicats, soit des associations. Ce collectif national a essaimé en fait en collectifs locaux. Et donc à ce jour, il y a à peu près entre 80 et 90 collectifs locaux qui se sont créés. Dans la région, il y en a un à Lille, il y en a un à Arras, il y en a un à Béthune, et je pense qu'il doit y en avoir un à Boulogne.
Dunkerque.
Et à Dunkerque. Donc, cette journée d'action contre le TAFTA est laissée à l'initiative des collectifs locaux. Donc, il y a effectivement une manifestation qui est prévue à Lille samedi après-midi. Au niveau de TAFTA à Arras, on a prévu, nous, quelque chose samedi matin. Et en fait, ça sera un regroupement à partir du marché d'Arras samedi aux alentours de 10h avec une distribution de tracts. Et ensuite, on essaimera dans la ville en différents points pour continuer à distribuer les tracts. L'objectif premier pour nous est effectivement de diffuser une information maximum sur ce qu'est ce traité TAFTA.
Alors c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé à cette antenne, notamment avec une rencontre, une interview qu'on a faite avec le collectif Arageois. Mais pour résumer un petit peu de quoi on parle.
Alors très rapidement, on va refaire peut-être un petit peu d'histoire. Après la guerre, les grands de ce monde se sont dit que si les gens faisaient du commerce entre eux, il ne serait plus la guerre. Donc il y a un organisme qui a été créé qui s'appelait l'UNGAT, dont l'objectif essentiel avait été de travailler justement à la libéralisation du commerce. Et sous un angle très clair, très net, c'était la baisse des droits de douane sur les produits industriels. Ce GATT a travaillé jusqu'au début des années 90 et de son point de vue, il a réussi puisque les tarifs douaniers se sont effondrés et le commerce international a explosé. Donc là, ils ont voulu passer à une autre dimension et ils ont créé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec un champ d'application qui était beaucoup plus important, puisque ça s'est étendu à l'agriculture, à la propriété intellectuelle et surtout aux services. l'OMC n'a pas fait preuve de la même efficacité que le GATT. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les discussions, notamment sur les services, se sont enlisées et ont pratiquement capoté. Elles sont aujourd'hui complètement en sommeil. Donc les États se sont lancés dans des discussions entre États et ont mis en place ce qu'on appelle des accords de zone, en fait. Voilà, des accords locaux, des accords de partenariat économique, hein, des APE. Et en fait, ce qui est en train de se négocier actuellement dans le cadre du TAFTA, c'est ça, c'est un traité d'accord de partenariat entre deux grandes puissances que sont l'Union européenne et les États-Unis. Et c'est là, effectivement, que le problème devient important parce que ça représente, je crois, à peu près 40 à 50% du PIB mondial et que ça représente aussi, je crois, 60 à 70% du commerce mondial international. Donc, ce qui est en train de se négocier aujourd'hui aura forcément une importance sur tout ce qui viendra après. Et l'objectif affiché de ces discussions, c'est d'arriver à un très haut niveau de libéralisation. Or, quand on dit libéralisation, on dit naturellement déréglementation, dérégulation.
Dérégulation et donc plus de pouvoir aux multinationales, ce genre de choses, quoi.
Voilà.
Capitalisme qui prend plus le pouvoir, quoi.
Voilà. Alors effectivement, ces négociations sont voulues par les multinationales. Hein, et c'est elles qui ont appuyé beaucoup pour qu'elles se mettent en route. Alors en fait, il y a deux champs d'application, le commerce et l'investissement. Le commerce, il y a deux axes de négociation. D'une part, continuer à baisser les tarifs douaniers, mais pratiquement comme ils sont au plus bas, il n'y a plus grand-chose à négocier, sauf peut-être pour l'agriculture. Mais c'est surtout de s'attaquer à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Ces barrières non tarifaires, c'est tout ce qui est protection, tout ce qui est normes de production, protection environnementale, protection sociale, protection sanitaire, et les considérer comme des entraves au commerce et à l'expansion du commerce, et je pense le maître mot de ces négociations. Ce qui veut dire qu'à terme, si cet accord passe, il y aura un nivellement, et généralement le nivellement se fait par le bas, de toutes ces normes de protection. Et c'est là où pour nous il y a un grand danger. Dans le tract qu'on va distribuer ce samedi, on reprend par exemple les OGM, hein, que les États-Unis souhaitent bien imposer. On reprend les carcasses de poulet fluoré, le bœuf aux hormones. Tout ça, c'est des choses qui risquent d'arriver parce qu'effectivement, il y aura un nivellement des normes de production.
Pierre Rose ?
Oui, je prends un exemple au niveau du gaz de couche. Et actuellement, avec la loi de 2011, la loi Jacob, il est interdit de fracturer. Concrètement, si TAFTA passe, les entreprises pourront attaquer l'État, et c'est ce qu'ils vont faire en différents endroits, dans différents domaines. Donc ils pourront attaquer l'État en disant que vous nous empêchez de travailler, et donc nous, on va fracturer, sinon vous devrez payer des amendes grâce au fameux tribunal arbitral dont on va parler Hervé certainement.
Voilà. Oui, c'est un point vraiment un des points principaux de la contestation sur TAFTA.
Oui, c'est le deuxième point important. Alors effectivement, j'ai dans un premier temps parlé du commerce. Le deuxième volet des négociations porte sur l'investissement. Et le but de ces négociations pour les multinationales, c'est de sécuriser au maximum leurs investissements. C'est-à-dire que si un État, à un moment donné, prend une loi ou une réglementation qui est contraire à leurs intérêts, qu'elles puissent retrouver l'argent qu'elles vont perdre par la mise en place de cette loi. Et donc, il y a la création d'un tribunal arbitral qui est donc une justice privée qui sera rendue par des cabinets d'affaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une multinationale pourra dire « Là, on a perdu autant d'argent parce que vous avez pris une réglementation qui a mis en péril nos intérêts. Donc, on vous demande de nous payer ce que vous nous devez, puisqu'on a un manque à gagner. Et si vous ne voulez pas, ben, on s'adressera à un cabinet d'affaires qui, lui, prendra toutes les décisions qu'on sait.
Alors, les négociations, on le sait, sont secrètes. Hein. C'est aussi là un point d'attaque du collectif, des collectifs Stop TAFTA. Mais est-ce qu'on sait où on en est aujourd'hui de ces négociations ?
Alors, effectivement, on le sait parce qu'il y a des fuites. Donc, on a des informations qui sont... je ne sais pas si elles sont que parcellaires ou si elles sont importantes ou pas. Parce que, je veux dire, on ne connaît pas le contenu exact des négociations. On peut, par rapport à TAFTA, on est aujourd'hui... Je crois que c'est en train de se finir en ce moment au 7e round de négociations. Il y a une volonté qui s'affiche de plus en plus d'aller vite, et ceci pour éviter que la contestation ne grandisse et qu'elle s'amplifie. Ça a été la déclaration de Hollande quand il est allé voir Barack Obama dernièrement aux États-Unis en disant « il faut aller vite ». Et je pense que tout le monde est un petit peu d'accord. Merkel est aussi d'accord pour aller plus vite. Voilà, on est dans ce contexte-là et effectivement, enfin, t'en parlais, on est effectivement sur un secret des négociations. La raison qui est affichée pour ce secret des négociations, c'est qu'on ne montre pas son jeu à son adversaire quand on discute. C'est assez étonnant, enfin, quand on sait que la NSA a quand même été épiée les coups de téléphone de Merkel. On pense effectivement qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu pipées dans cette affaire.
Avec l'intervention de Pierre Rose, on a bien compris hein, la convergence des enjeux quoi, entre cette journée No Fracking Day et puis cette mobilisation Stop TAFTA. Peut-être quand même un mot sur comment ça s'est fait en région, la convergence de ces deux mouvements.
D'une part, il y a aussi la convergence avec le nucléaire, pour le refus du nucléaire, ce qui est tout de même assez important parce qu'il me semble que il faut essayer de regrouper le plus possible les forces de façon à ce que non seulement on soit nombreux, mais que les gens prennent conscience que ça forme un tout. Et TAFTA, évidemment, gère beaucoup plus de problèmes que que tout ce qui a rapport avec le gaz de couche. Mais ce qui est essentiel, c'est de montrer un petit peu qu'on a en face de nous un certain nombre de personnes, un certain nombre d'entreprises, de multinationales, qui ont une cohérence au niveau mondial. Et donc, il faut essayer de se battre sur une cohérence globale. Et ce qui fait qu'effectivement, le fracking day, le no fracking day, rentre bien dans la convergence avec le TAFTA et on n'est pas gêné de venir, à un rassemblement à Lille avec d'autres forces parce que actuellement on est trop dans la dispersion des différentes luttes et il faut montrer justement la capacité des personnes à réfléchir de façon beaucoup plus globale.
Hervé Dieval, justement, les gaz de couche, c'est un exemple justement de ce qui pourrait arriver avec TAFTA ?
Bien sûr, oui. C'est un exemple. Mais ouais. Comme le disait Pierre, je pense que le traité va beaucoup plus loin que le problème spécifique des gaz de couche. Je crois que c'est toutes les réglementations sanitaires, sociales, environnementales qui vont être remises en cause dans cette affaire. Donc je pense que c'est beaucoup plus large que les gaz de couche. Et je crois que l'instrument du tribunal arbitral est un instrument absolument redoutable parce que ils attaqueront à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va aussi bien au niveau du pays, de la région que de la commune. Tous les échelons d'administration vont être concernés dans cette affaire.
Oui, par exemple, puisqu'on veut, au niveau de TAFTA, on veut poser les problèmes. Il faut poser les problèmes au niveau de l'eau, de l'énergie, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de la culture également. Et l'enseignement, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'on va aller vers un enseignement privé le plus possible si TAFTA passe. Donc ça fait partie des exemples pour lesquels, effectivement, il est important de se mobiliser.
Ça, alors, on va peut-être pas complètement noircir le tableau, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le TAFTA, quoi. Il y a d'autres négociations qui sont actuellement en cours. notamment sur le commerce des services, qui se font dans un autre cadre que celui d'un cadre bilatéral. Mais actuellement, il y a une cinquantaine de pays qui sont en train de négocier, toujours naturellement dans le plus grand secret, un accord sur le commerce des services. Alors les services, c'est quoi ? C'est un petit peu tout ce que Pierre vient de dire, hein, c'est-à-dire la santé, les transports, l'énergie, l'éducation, la culture. La volonté est véritablement de libéraliser, hein, donc de déréglementer pour que toutes ces choses deviennent des marchandises comme les autres et donc qu'elles soient soumises à la sacro-sainte loi de la concurrence et surtout de la concurrence libre et non faussée. Pour le comité anti-TAFTA, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de faire en sorte que ces choses ne soient plus secrètes, hein, qu'elles ne se fassent pas dans le dos des peuples, parce que c'est l'avenir des peuples et c'est l'avenir de la démocratie qui est en train de se jouer. À partir du moment où les multinationales pourront imposer aux États leur vision de la société, il est évident que les peuples n'auront plus la marge de manœuvre pour choisir. Hein. Donc, premier objectif, c'est continuer à diffuser l'information au maximum. Deuxième objectif, c'est de sensibiliser les élus de tout niveau, que ce soit des élus locaux, que ce soit les élus communautaires, que ce soit les élus régionaux ou que ce soit les élus nationaux, puisque c'est des choses qui seront aussi votées, hein, à un moment donné par les élus et que là aussi, il y a besoin de les sensibiliser. Hein. Pour exemple, enfin moi je reste optimiste sur la suite, puisque jusque maintenant, on a quand même réussi à mobiliser des régions qui se sont déclarées hostiles aux négociations. Il y a un certain nombre de communes qui se sont déclarées hostiles à ces négociations.
Y compris dans la région Nord-Pas-de-Calais, alors ?
Alors, la région Nord-Pas-de-Calais, effectivement, s'est déclarée hostile aux négociations. Les régions, je crois qu'il doit y en avoir 12 sur les 24, ou 22. Okay. Donc il y en a 12 qui se sont déclarés soit hostiles, soit demandant un moratoire, soit en état de vigilance. Hein. Et il y a 80 villes qui se sont déclarées de la même manière.
Arras
Arras, non. Alors ça fait partie du travail que va entamer le comité Stop TAFTA d'Arras, c'est-à-dire qu'on va saisir tous les élus de la communauté urbaine pour les informer et leur demander de prendre des décisions dans ce sens. Voilà, et je terminerai sur une pétition qui est en ligne sur le site collectif Stop TAFTA, où les citoyens se déclarent, eux, hors TAFTA. Alors c'est une décision tout à fait symbolique, mais qui est importante, je crois, pour faire voir effectivement qu'on est là et qu'il faudra compter avec nous.
Pierre-Rose ?
Donc un rappel. Arras à 10h le samedi 11, rassemblement du côté du Beffroi.
Voilà.
Et l'après-midi à Lille, à partir de 14h jusqu'à 17h, il y a non seulement des différents thèmes qui vont être abordés, mais également un genre de tribunal contre les multinationales, donc de 14h à 17h sur la Grand Place à Lille.